Je voulais faire vraiment un portrait assez complet de la société, quoi. Alors, on n'arrive jamais à faire un portrait complet, mais ce que je voulais, c'était être aussi exhaustif que possible sur toutes les crises.
La crise, le 7e film réalisé par Colin Serrault, n'a pas pris une seule ride. La réalisatrice de Trois hommes et un couffin y célèbre les combats féministes et écologistes et y dénonce les tares de la société. Racisme, montée de l'extrême droite, déliquescence de la gauche, malbouffe, individualisme. Au cœur du film, les mésaventures de Victor, incarné par Vincent Lindon. En un jour, sa femme le quitte et il perd son travail. Personne autour de lui ne semble se préoccuper de son sort. La seule oreille attentive qu'il trouve est celle de Michou, un SDF rencontré dans un café et qui va vivre à ses crochets. Immense succès à sa sortie en décembre 1992, la crise est devenue culte, avec des monologues restés célèbres comme celui notamment de Maria Pacôme qui affirme face à ses enfants et à son mari son indépendance. La crise, comment Colin Serrault a réalisé la comédie la plus visionnaire de notre époque. Bonjour, je suis Jérôme Lachasse et j'ai rencontré Colin Serrault. Elle nous raconte comment elle a trouvé l'idée de la crise, d'une manière assez inattendue.
Je me souviens très bien, c'était un été où je me suis réveillée avec deux images. J'avais fait deux rêves. Un rêve où je voyais trois hommes penchés sur un berceau et un deuxième rêve où je voyais un type qui perdait son boulot et sa femme le même jour. Je savais qu'il fallait que j'écrive des trucs là-dessus, que c'était des bons prémices. Et j'ai demandé à mon fils, qui était tout jeune à cette époque, qui avait un sacré œil sur tout ça, qui était bien. J'ai dit, de ces deux-là, qu'est-ce que tu penses? Oh, il me dit, j'aime bien les deux, mais je pense que j'aime bien l'idée des trois mecs sur un berceau, je trouve ça bien. Donc j'ai commencé par celui-là, et puis après j'ai fait l'autre.
Après les 10 millions d'entrées de Trois hommes et un couffin, Colin Serrault avait carte blanche pour imaginer la comédie de son choix.
Ils ont vu que c'est un film qui rapportait beaucoup d'argent, donc à partir de là, ils m'ont laissé faire ce que je voulais pour la crise. Mais la crise, j'étais avec un très 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 bon producteur. Sard, c'est un type formidable, c'est un type qui a un profond respect pour les créateurs, qui est très drôle, qui est passionné par les problèmes de la vie. On a toujours eu des conversations très intéressantes et c'est lui qui a produit la crise. Et là, il m'a vraiment foutu une paix royale. Il y avait du respect pour ce que j'étais et en même temps, un soutien. Je n'ai jamais profité de cet avantage que j'avais. J'ai jamais dépassé les budgets ou la folie des grandeurs. C'était un vrai compagnonnage intelligent.
Colin Serrault écrit la crise pour rendre le film le plus intemporel possible.
Maintenant, je sais que ce que je veux faire, moi, dans ma vie et dans mon œuvre, c'est dans un temps très long. Je veux que ça ait un écho dans un temps très long. Et je pense à l'avenir en écrivant. Je pense pas seulement au présent maintenant, à faire mon petit beurre maintenant. J'essaye d'avoir une prospection intellectuelle de ce que va devenir la société, comment elle évolue. Et que ce que je fais ne soit pas tout d'un coup périmé 10 ans après, comme la plupart des trucs qu'on voit maintenant. Et surtout les cinémas des hommes.
Certaines scènes sont visionnaires, notamment celles avec les enfants qui font la leçon à leurs parents sur le gaspillage alimentaire. La réalisatrice estime pourtant ne pas être allée assez loin.
Je voulais faire vraiment un portrait assez complet de la société, quoi. Alors, on n'arrive jamais à faire un portrait complet, mais ce que je voulais, c'était être aussi exhaustif que possible sur toutes les crises. Je n'ai pas abordé l'écologie là-dedans, je l'ai fait ailleurs. Je sentais que ce n'était pas mûr dans la société, donc ce que j'ai fait une scène où à la fois ils apparaissent comme des crétins et à la fois ils sont quand même intelligents. Donc comme ça, le public pouvait choisir son camp, et ce n'est pas moi qui choisissais à leur place. Ceux qui étaient relativement éveillés pensaient que ces gars-là, ils avaient totalement raison, et ceux qui étaient encore complètement endormis, c'est-à-dire le trois quarts de la population, pensaient que c'était des petits cons. C'est pas grave. L'équation était posée. Et maintenant, plus on le revoit, et plus on voit que c'est eux qui ont raison, quoi.
Colin Serrault en est certaine. Pour parler des problèmes qui traversent la société française, rien de plus efficace que l'humour.
C'est ça aussi qui est important pour nous, les cinéastes, c'est de pas brailler tout seul dans le désert, de tout le temps se poser la question de comment parler pour que ça en soit entendu. C'est l'essence même de la comédie, parce que ça, l'humour, c'est une espèce de truc magique qui concentre plein d'idées dans un moment dialectique où tout est réuni par une blague. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'a pas besoin d'explication, pas de verbalisation, pas de théorie, rien. Dans une blague, vous comprenez toutes les facettes d'un truc. C'est très très beau pour ça, l'humour. C'est pour ça que c'est une Kalachnikov. Donc il faut trouver, pour chaque chose qu'on veut dire, parce que c'est quand même un film à thèse, hein, comment le faire, la ruse, pour que ce soit l'humour qui l'emporte, c'est-à-dire que ce n'est pas une pensée monolithique, c'est une pensée dialectique. C'est une pensée qui inclut tout et son contraire. Quand on fait que la comédie sans pensée derrière et sans ruse derrière, ça reste un peu ras des pâquerettes.
Il aura fallu des semaines de recherche pour Colin Serrault pour trouver les comédiens parfaits. Désormais indissociables de Vincent Lindon et de Patrick Timsit, les rôles de Victor et de Michou ne leur étaient pourtant pas destinés.
Je voulais pas Lindon, je voulais pas Timsit. Et c'est là aussi où moi j'ai fait une erreur là. Et après ça j'ai compris beaucoup de choses parce que, mais même déjà avec Le Couffin j'ai fait des erreurs. Une grande partie de mon travail c'est de diriger les acteurs et j'adore ça et je les emmène plus ou moins là où je veux. Un acteur donc c'est une patte malléable. Le plus important quand on choisit un acteur c'est qu'il ait vraiment envie de le faire. Parce qu'à partir de là vous avez un allié et que vous pouvez accompagner vers le mieux. Vous pouvez le rendre toujours meilleur sans résistance, parce qu'il est heureux, parce qu'il est content d'être là.
Vincent Lindon est à l'époque au début de sa carrière, cantonné au second rôle. Il se bat bec et ongles pour décrocher le film.
Lindon, il voulait faire ce film, il voulait, mais à un point, mais il a tout fait, quoi. Il m'a acheté un magnétoscope, que j'avais pas de... j'avais pas de télé, truc, tout ça. Il m'a acheté un magnétoscope pour que je vois ses bandes-annonces. Et puis je l'appelais pas parce que j'en voulais pas, mais j'avais tort. Il le sait que je le pense, ça. Et finalement, il a gagné, quoi. J'aurais dû sentir, le voir, quoi, plus tôt, cette rage qu'il avait de faire le truc. Et ça a été formidable, parce que quand un acteur a cette rage, il travaille bien, quoi. Et Vincent, il avait des choses qu'il fallait encore qu'il comprenne comme acteur, quoi. Il était brillantissime, il a appris tout par cœur. Et il s'est formé, mais il a formé le film aussi. Il a rendu au film cette naïveté aussi qu'il avait, qui était extraordinaire. Il se regardait pas jouer, il jouait.
Patrick Timsit, lui aussi, s'est accroché. Mais Colin Serrault n'en démordait pas.
J'en voulais pas, il avait fait une audition pourrie, il parlait faux. Et puis son agent m'a rappelé en me disant, mais écoutez, il faut refaites une audition, ce serait tellement bien qu'il le fasse et tout. Mais j'ai dit, mais moi, je veux bien parce que je suis très courtoise et que si vraiment il veut, il peut venir tant qu'il veut, mais je ne le prendrai pas. Il n'y a pas de discussion. Et il est revenu et puis après j'ai regardé toutes les bandes et c'était vraiment lui qu'il fallait, quoi. Et là aussi je me suis trompée. On n'est pas infaillible, jamais. Mais enfin, finalement, ça a été rattrapé quand même.
La comédie, c'est de l'horlogerie. Le timing d'une blague doit être très précis. Colin Serrault est très exigeant sur le jeu et intraitable sur le texte. Sinon, tout l'équilibre s'effondre. Les répliques, cisaillées, doivent être dites parfaitement, à un rythme effréné, pour maximiser l'effet comique.
Je suis quelqu'un de très exigeant, et surtout sur les intonations. Sur une intonation, vous pouvez avoir un rire ou ne pas l'avoir. Et c'est pas pour les emmerder au quart de ton, c'est que je sais qu'une intonation, parce que moi j'ai joué au théâtre pendant toute ma vie, qu'une intonation peut déclencher un rire immense, alors que l'autre, ça va être moins. Donc je les pousse à ça. Et Vincent, des fois il comprenait, des fois il comprenait pas. C'est pas un musicien de formation. Il faudrait que les comédiens soient plus musiciens de formation.
La réalisatrice encense Michèle Larocque, qui est alors au début de sa carrière. La jeune actrice impressionne énormément Colin Serrault.
Alors elle. Ça, Michèle Larocque, je sais, peu importe son trajet après, ça ne me regarde pas. Mais je dois dire que ça, alors avoir cet outil-là dans les pattes, c'est quelque chose. Hein. Elle a un comique intrinsèque. Et puis alors elle est super préparée, elle est super rapide, drôle, une technique incroyable de changement de paf, paf, paf. Moi, j'admire beaucoup Michèle. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner avec elle. C'était une révélation.
L'autre révélation du film, c'est Maria Pacoum. Son monologue sur les pressions sociales exercées sur les femmes et la charge mentale imposée aux mères est l'une des scènes les plus célèbres du cinéma français contemporain. Sur le tournage, en revanche, ça n'a pas été une partie de plaisir.
J'ai toujours adoré Maria. Depuis toujours, je la regardais ou j'allais voir ses pièces. J'ai toujours trouvé qu'elle avait une puissance comique et une puissance tout court. C'est-à-dire qu'elle s'est jamais laissée bouffer dans les rôles d'idiote au boulevard. Elle était toujours forte. Un métier, mais de dingue. Le problème, c'est que beaucoup de ces acteurs, d'une certaine époque, le théâtre, c'était l'important. Et le cinéma, c'était pour faire un peu d'argent, quoi. Je pense pas que Maria ait pensé, quand elle est venue, que c'était important. Elle aimait bien le rôle, elle le faisait bien, mais elle était absolument pas préparée, mais pas du tout, quoi. Elle est arrivée sur ce tournage sans savoir une broque du texte. Parce qu'à cette époque-là, les comédiens de théâtre, eux, ils avaient un métier, mais les comédiens de cinéma, ils pensaient que, bon, on leur donnait le script le matin, puis que de toute façon, comme c'était très découpé, ils arriveraient à s'en sortir. Et elle savait un peu le texte, mais pas assez pour aller au rythme où moi, je voulais qu'on aille.
Maria Pacoum ne connaissait pas assez bien son texte. Colin Serrault a fait 17-18 prises de la scène avant de la reconstruire complètement au montage.
Le truc qu'on voit dans le film, qui a l'air tellement fluide, en fait, c'est de la pure dentelle. Hein. On a utilisé toutes les prises, quoi. Comme je suis assez précise dans les textes et c'est tout le temps la même chose, je cherche pas du tout de l'improvisation, ça colle parce qu'on arrive à recoller les mots du son sur une autre image. Mais ça n'empêche en rien son génie. Dans chaque prise, il y en avait un bout. Ça n'enlève rien à son génie. C'est elle, géniale, sur des scènes qui ont libéré une parole, quoi.
Victor, ta mère a un amant. Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui.
Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul?
Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, J'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi.
Et la mère peut très bien être heureuse sexuellement aussi. La maternité, bon, c'est une période dans la vie d'une femme. Puis après, bah, c'est très long sans enfants et c'est très long avant les enfants. Et c'est très beau et on peut refaire des vies. Et cette espèce de société où la mère est collée à ses gosses, elle comme une espèce de scotch... Où on les laisse pas vivre, où on a sans arrêt cette culpabilité. Non.
Si le film suit le parcours de deux hommes, il montre aussi des rôles de femmes différents de ce que l'on trouve habituellement dans les comédies françaises.
Les femmes étaient toujours la femme de quelqu'un. Il y a qu'à voir les films de Funès, c'est tragique, quoi, le rôle des femmes, c'est terrible. Yvonne Clèche, qui a beaucoup joué avec lui, qui était une très grande actrice. Tous ces gens-là de grands talents étaient réduits à des poufias, quoi, mais zut, quoi.
La crise a beau être à contre-courant des comédies françaises, le film cartonne à sa sortie. Avec 2 millions d'entrées en décembre 1992, c'est un triomphe. Colin Serrault recevra le César du meilleur scénario en 1993.
Il y a eu le premier énorme succès, c'était quand même Le Couffin. J'ai été très prudente avec ce succès en me disant toujours, faut pas que je prenne la grosse tête. Le succès, c'est plus dur à gérer que l'échec, parce que tout un tas de gens se ruent sur vous avec pas forcément des bonnes motivations. Ça vous éloigne des gens qui vous aiment parce qu'ils ont eu l'impression qu'on vole. Moi, j'ai eu ça, de mes enfants qui se sont sentis spoliés de leur mère après Le Couffin. Je suis toujours très heureuse du succès. Je l'espère toujours plus immense. J'ai toujours pensé que ça devait faire encore beaucoup plus d'entrées. Et je suis toujours très prudente en me disant ne deviens pas bête avec ce succès. Continue à apprendre parce que t'as plein de choses encore à améliorer, à savoir.
Après le succès de La Crise, Colin Serrault continue à tracer sa route singulière dans le cinéma français. Son film suivant, La Belle Verte, encore avec Vincent Lindon, est plus ambitieux, une comédie poétique de science-fiction. Visionnaire elle aussi, elle ne remportera pourtant pas le succès escompté, mais deviendra culte. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comedy Club, le podcast qui dévoile les coulisses des comédies françaises. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire. Pour aller plus loin, une série d'articles inédits est à retrouver sur le site de BFM TV. À bientôt !